La part du PIB que représente l'agriculture en Palestine est passée de 50% en 1968 à 3,9% en 2014. Dans les années 1950, la Palestine exportait du blé en Jordanie et dans les pays du Golfe. Aujourd'hui, sa production céréalière ne couvre plus que 5% des besoins du pays. Malgré l'enjeu crucial qu'elle représente, l'agriculture palestinienne est marginalisée dans les études sur la question agraire. Souvent considérée comme une exception, elle est traitée à part, y compris dans les études agraires sur la région arabe, elle-même déjà longtemps oubliée. La question agraire, c'est-à-dire l'étude de la répartition et de l'usage des terres, doit être traitée de façon différenciée selon les régions et les pays. Mais elle répond à peu près partout à une logique coloniale, avec une population dominante imposant sa répartition aux populations dominées. En ça, la question agraire palestinienne ne diffère pas des autres et devrait même nous éclairer sur le reste du monde. Dans les usages des terres en Palestine, il y a la production maraîchère, il y a aussi la production de viande, notamment par les Bédouins. Présents de nos jours sur la rive ouest du Jourdain et dans la région de Jérusalem, les Bédouins sont pour la plupart des réfugiés qui ont été déplacés depuis le désert du Negev par les Israéliens en 1948 lors de la Nakba, et après le cessez-le-feu de 1951, suite à leur refus de coopérer avec les Israéliens. Les études scientifiques commencent-elles à s'intéresser à la question agraire palestinienne? Comment l'agriculture palestinienne est-elle affectée par la colonisation et comment s'adapte-t-elle? Et enfin, comment les Bédouins arrivent-ils à perpétuer leur style de vie nomade dans un contexte territorial restreint? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre avec notre invité aujourd'hui. Les Voix du Crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur le 93.9 FM. Une émission de la Compagnie des Rêves Lucides, coproduite par Radio Campus Paris. Un jeudi sur quatre. À 20h. Arman Khenaiti, vous êtes doctorant en anthropologie à l'Université Paris 8 et titulaire d'un master de sociologie de l'Université de Birzeit. Vos spécialités sont l'agriculture palestinienne et les communautés bédouines. Votre thèse d'anthropologie à Paris 8 s'intéresse aux Bédouins de la rive ouest du Jourdain. Ahmad Khenaiti, bonjour.
Bonjour.
Alors, je précise que cette émission va être traduite. Nous avons une traductrice avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous laisser dire en arabe la présentation de Ahmad Khenaiti. Juste avant, je présente le reste de l'équipe. Nous avons Emric et Dario qui sont de l'autre côté de la vitre à la réalisation.
أنت طالب دكتوراه أحمد بالأنثروبولوجية بجامعة باريس 8 وحاصل على ماجستير في علم الاجتماع من جامعة بيرزيت ومتخصص في الزراعة الفلسطينية والمجتمعات البدوية والثيزس تبعك وتروحتك بباريس 8 بالبدو بالضفة الغربية لنهر الأردن
صحيح
إذا في شيء تحب تزيده
صحيح لا هذا هو
Alors, la première partie de l'émission va être consacrée à l'agriculture palestinienne dans la question agraire. Alors, j'ai utilisé plusieurs fois ce mot de question agraire dans l'édito. Ahmad Khenaiti, qu'appelle-t-on la question agraire dans le vocabulaire scientifique ?
ماذا يقصد المسألة الزراعية في المصطلحات العلمية ?
يعني هي كيف نسأل عن الزراعة ونجاوب عليه بطريقة علمية السؤال العلمي حول الزراعة الفلسطينية أو الزراعة بشكل عام. ولما نحكي عن السؤال حول الزراعة، إنه الزراعة بتتكون فيها الكثير من القضايا والمسائل اللي بحاجة بتكون لدراسة، اللي هي ممكن نحكي عن القوى الفاعلة في الزراعة، شروط الإنتاج.
C'est la manière dont on peut étudier l'agriculture, comment étudier d'une manière scientifique. Et quels sont tous les aspects qui peuvent impacter l'agriculture, de tous les aspects politiques, scientifiques, on va parler plus.
وكمان قضية العمل الزراعي، الجندر، تفاوت الملكية، تفاوت الأجور، كل هاي القضايا بتصفي إنها حق للعمل، يعني مسألة الزراعية.
Ok. Donc aussi, ça concerne la propriété, les marchés, le travail, les orientations agricoles, les ressources naturelles comme l'eau, la terre et le climat.
وفي كمان إنه نتيجة التطور والتقدم اللي عم بيصير والتغيرات اللي عم بتصير، بيصير في مواضيع جديدة مثل الإيكيولوجيا، مثل السيادة الغذائية، يعني قضايا وسياسات الزراعة.
Et bien sûr, on va pouvoir voir plus de choses avec l'évolution et le développement, on aura plus de problématiques sur l'agriculture. Et il y a beaucoup plein de aspects qui sont liés à l'agriculture, donc pas tout le monde connaît et qui peut impacter l'agriculture.
وحتى كل القضية من القضايا اللي حكيناها في إلها كتير، مثلا لما بنحكي عن العمل الزراعي بنحكي عن الأجور، عن قضايا كيف ساعات العمل، ظروف العمل.
Même chaque sujet que j'ai mentionné, c'est un grand sujet en fait, donc on peut parler des heures dedans. C'est-à-dire, si on parle du travail, des salariés, on parle aussi des loyers, des salaires, de l'heure de travail. Donc tout ça peut impacter l'agriculture.
Ah non.
Et je me permets une petite question supplémentaire. Le vocabulaire question agraire, on peut le faire remonter au 19e siècle dans la suite de Marx et de Engels. Il me semble que c'est ce que vous dites, mais peut-être que je fais un raccourci.
بتعرف شي ماكس امبرغر لانه قال عم بيقول الكلمه اغراري اللي هي
اغراريان
ال اي مارك سيتي كوا سون برينوم سون نو
ماركس انجلز
ماكس انجلز
ماكس انجلز هو اللي حكى عنه، يمكن انت دارس عنه او قاري عنه.
صحيح صحيح، يعني حكى فيها طول الوقت، ما هي المساله الزراعيه طولها وكيف تطور عمليه الانماط الانتاجيه اللي كان وقتها كان حوار كبير في هذيك الفترة 1800 وآخر الثمانينات لما كان ماركس وإنجلز.
Oui, je suis au courant de tout ça. C'était des années de 1800, fin 1800. On parlait de ça et Ahmed est au courant et il a déjà lu et étudié de Marx. C'est bon.
Alors, vous dites que la région arabe a longtemps été ignorée dans la recherche sur la question agraire. Comment cela se fait-il et cela a-t-il changé de nos jours ?
تقولون أن المنطقة العربية تم تجاهلها لفترة طويلة في البحوث حول المسألة الزراعية. كيف حدث ذلك وهل تغير الوضع في الوقت الحاضر؟
يعني فيه مقال جميل ماكس عجل بيحكي عن قضية كيف الزراعة العربية مهمشة في الحوارات والنقاشات الزراعية العالمية.
Ok. Donc il y avait un article écrit par Max Agel qui concerne la marginalisation de l'agriculture arabe.
من ضمن الأسباب اللي بيحكي عنها إنه قضية السيادة الوطنية على المصادر الطبيعية، إنه قديش الدول العربية عندها سيادة وطنية على المصادر الطبيعية.
Il a un des sujets dont il a parlé beaucoup, c'était la souveraineté nationale.
وقضايا لها علاقة في تراجع الإنتاج الزراعي، لها علاقة في قضية السياسات والظروف العامة اللي بتعيشها الدول العربية، قضية الحروب.
Il a parlé aussi des guerres et des comment l'agriculture a reculé avec le temps et voilà.
وكمان قضية إنه التمويل، إنه معظم الدراسات عادة بتكون ممولة من الخارج، وبالتالي قضية إنه هذا بيخلق إشكالية. ويعني حكى من ضمن الأشياء، يعني حكى كتير أشياء، بس كمان حكى عن قضية اليسار كتير كانت مهمة، هاي إنه بيحكي عن قضية اليسار، تراجع اليسار في العالم العربي اللي هو كان مهتم بالقضايا الزراعية، كمان هو تراجع وبطل، يعني أدى إلى فجوة في الدراسات.
Okay. Il parle aussi de la recherche. Parce que la recherche, parfois, il y a des donations de l'extérieur. Et ça, ça a impacté aussi la recherche sur l'agriculture. Et il a parlé aussi sur le déclin de la gauche et des problèmes au sein des institutions étatiques.
هلأ بالفترة الأخيرة في مجموعة من الشباب والاهتمامات اللي أجت كمان مع المواضيع أو يعني أطر مرجعية للتفكير في قضايا الزراعة مثل السيادة الغذائية والإيكيولوجيا، اللي كمان شجعت كتير من الباحثين إنه يهتموا في قضايا الزراعة وينتجوا أبحاث حولها.
أوكي، عم تحكي عن في أمليوس. أوكي. إلى أوسي parlé que إنه actuellement la situation s'est améliorée grâce à l'émergence d'une nouvelle génération de chercheurs. Qui parlent aussi, ils étaient encouragés à cause de la souveraineté nationale. Par exemple, de la souveraineté alimentaire et l'opposition aux politiques globalisées. Voilà.
Une génération de chercheurs arabes.
هن العرب يلي عم باحثين
يعني مثلا هلا عم بشو يعني عم بتابع الشيء اللي عم بصدر في العرب، في كتير من الشبكات العربيه اللي مهتمه بقضايا الزراعه، مثلا شبكه السياده الغذائيه، الشبكه اللي هم صاروا يهتموا بقضايا الزراعه من منظورات جديده اللي صارت توضح لهم وصارت تعطيهم اشياء يعني فكريه اللي يقدروا يحسوها انها عم تفسر شو اللي عم بصير، وهذا كمان شجعهم انه يستمروا.
شو قصدك شبكات؟
يعني نتورك.
نتورك على الانترنت؟
Il
y a plusieurs en fait à cause des voilà déjà c'est oui c'est des arabes et c'est à cause de plusieurs networks des réseaux oui qui sont plus aware à ce qui se passe.
Plus conscient.
Conscient oui. À ce qui se passe et c'est surtout sur la souveraineté que qu'ils ont été encouragés.
Oui. Voilà. Alors, pourquoi la question agraire palestinienne est-elle traitée à part ?
لماذا تعالج المسألة الزراعية الفلسطينية بشكل منفصل؟
هلا هاي هي قضية كمان شائكة ومتعددة، بس الأصل فيها إنه الحالة اللي عم بتعيشها في فلسطين إنه عم بخلي في إشكالية في كيف نتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام. في ظل كتم الصوت، اسكات الصوت الفلسطيني.
اوكي. Déjà le cas de Palestine c'est un cas exceptionnel et cas rare. Et il y a beaucoup dedans il y a pas un encouragement de s'exprimer si vous voulez.
وكمان الفكرة كمان صاروا يربطوا موضوع الزراعة في قضايا أخرى، مثلا قضية حقوق الإنسان يعني، أو قضايا العلاقة في الجندر، قضايا لهذا اللي كمان شوية يعني فيها صار إشكالية في كيف نتعاطى مع الزراعة.
L'agriculture a été aussi liée à plusieurs d'autres sujets comme le droit de l'être humain. Donc ça aussi c'est un cas exceptionnel. Et ça a poussé les gens à parler de voir le sujet de l'agriculture d'une manière différente.
وكمان يعني كمان جانب تاني إنه في عدم اهتمام في لفترة طويلة عدم اهتمام الباحثين الفلسطينيين في قضايا الزراعة واهتمامهم في قضايا أخرى خصوصا بعد أوسلو.
مثل شو قضايا أخرى؟
يعني قضية بناء الدولة مثلا.
Okay. Il y avait une longue durée. Où les chercheurs ne sont plus concentrés sur l'agriculture. Ils sont plus concentrés sur ce qui se passe actuellement en Palestine. Donc on parle de la guerre, on parle de la qualité de vie des Palestiniens actuellement.
والاهتمام التمويل كان في فترة طويلة خصوصا بنحكي بعد أوسلو كان يركز على قضية بناء على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وهيك همشوا القضايا التنموية.
il y avait beaucoup d'autres sujets qui sont très comment dire qui sont dominants, on va dire, comme les droits des femmes, qui sont un des sujets, et ça, ce sont des sujets qui dont on a parlé avant l'accord de Oslo.
ولكن هلا ممكن نحكي انه كمان الوضع اختلف خصوصا بعد 2015 لعدة يعني اسباب يعني
et ça maintenant ça a changé depuis 2015 la situation a changé
احكي بعد يعني من ضمن الاسباب انه هي قضية انه كل المشروع السلام فشل وكمان انه طلع جيل جديد شاب من الباحثين الفلسطينيين اللي حاصلين على درجات عليا
il y avait un plan de paix qui a échoué donc maintenant on a une nouvelle génération de chercheurs qui veulent commencer à faire des études et faire des recherches
وهدول الباحثين صاروا شغلتين المنظورات الفكرية اللي طلعوا فيها على المجتمع الفلسطيني إنه إحنا لازم نرجع نحكي عن القضايا السيادية اللي هي لها علاقة مثلاً خصوصاً موضوع الزراعة اللي بيدعم صمود الناس.
Et ces chercheurs veulent aussi se concentrer sur la souveraineté nationale et sur les problématiques de la vie des êtres humains.
وكمان قضية إنه المرجعيات الفكرية اللي صار يستخدموها اللي هي ضد الكولونيالية والسيادة الغذائية والإيكولوجية اللي صارت تحاول إنه صاروا يشعروا إنها يعني إطار يساعدهم بشكل حقيقي إنهم يفسروا شو اللي عم بيصير بالزراعة الفلسطينية.
ما كتير فهمته.
يعني إنه صاروا يستخدموا منطلقات فكرية يعني نظريات. زي الإيكولوجيا زي السيادة الغذائية زي مناهضة الاستعمار لحتى اللي حسوها إنها هي هاي القضايا إنها بتساعدهم بتفسير الواقع الزراعي في فلسطين.
Okay. Pour pouvoir expliquer ce qui se passe sur l'agriculture, les chercheurs étaient obligés d'utiliser plusieurs arguments, comme les arguments de la souveraineté, la situation actuelle dans Palestine, la politique. Donc, ils utilisent plusieurs arguments, différents arguments pour parler de l'agriculture.
Et dans le passé, y a-t-il eu, malgré tout, des études sur l'agriculture palestinienne ?
هل أجيت على أي حال دراسات حول الزراعة الفلسطينية؟
هلا إحنا بنقدر نحكي عن هذا الموضوع يعني تاريخيا يعني إحنا بنحكي مثلا قبل يعني فلسطين هي أرض بلد زراعية تاريخيا.
Dans l'histoire, Palestine est un pays où il y a une grande agriculture. On a beaucoup de terrains agriculture. On parle des olives et tout d'autre.
ولكن لما صارت النكبة الفلسطينية في 48
Quand la Nakba s'est passée en
1948,
tous les sujets se sont concentrés plus sur l'immigration des Palestiniens, plus que l'agriculture.
ولكن بنفس الوقت في ذات الوقت بهذيك الفترة كان في بعض الدراسات اللي بتحكي عن الزراعة اللي بهدف تعزيز صمود الناس على الأرض. بهذيك الفترة كما بنفس الوقت كان في دراسات فلسطينية عن الزراعة الفلسطينية اللي بتهدف لتعزيز صمود الناس على الأرض.
Okay. Il y avait aussi des recherches sur l'agriculture à l'époque pour montrer comment le peuple est prêt à rester dans leur terrain et encourager le peuple à rester dans où il habite quoi.
يعني هي جزء من استراتيجيات البقاء والصمود على في الأرض الفلسطينية إنه كيف نعمل دراسات إنها تعزز تساعدنا كيف نعمل سياسات تخلي الناس موجودة.
Okay. Ils essayent de faire des recherches qui peuvent encourager les Palestiniens de rester dans leur pays, dans leur maison, dans leur village. Donc voilà, on utilise la recherche pour leur encourager, leur montrer. Qu'est-ce qu'ils ont comme agriculture?
وهيك نحكي إنه يعني معظم من هذيك الفترة أغلب الدراسات كانت دراسات محلية يعني ينتجوها فلسطينيين باللغة العربية للناس عساس تشجع السياسات.
Et c'était plutôt des recherches à la langue arabe pour que les Palestiniens comprennent.
هلا بفترة أوسلو يعني آخر الثمانينات وبداية لفترة أوس تسعينات لما صارت أوسلو لحد 2010 صار في غياب شبه كامل للدراسات اللي بتحكي عن الدراسات الزراعية في فلسطين.
2010 il y a eu une absence de la recherche sur l'agriculture.
كأنه المرحلة فرضت حالها. المرحلة فرضت حالها بمعنى إنه الاهتمام في القضايا الزراعية، الاهتمام بقضايا الفلسطينية بتركز أكثر على قضية بناء الدولة، مؤسسات الدولة اللي كنا نحكيها قبل شوي.
Il y avait plus une concentration sur une construction d'un État palestinien au lieu de une concentration sur l'agriculture.
Suite aux accords d'Oslo.
Ah, suite aux accords d'Oslo. Merci.
لهيك يعني بعد 2010 صارت في دراسات جديدة اللي كنا نحكيها اللي هو الجيل الشاب.
Et bien sûr, après 2010, il y a eu de nouvelles recherches. Ce sont les recherches de la nouvelle génération.
Et
ça se continue jusqu'à aujourd'hui.
En quelques mots, quelle est votre contribution à ces études sur la question agraire palestinienne ?
ما هي مساهمتك في هذه الدراسات حول المسألة الزراعية الفلسطينية؟
هلا أنا مساهمتي كانت متواضعة.
C'était une contribution, comment dire, humble.
Humble.
Voilà.
لأنه كل كتاباتي كانت أكثر باللغة العربية.
Parce que vu que Ahmad il parle en arabe et il écrit en arabe, donc il pouvait s'exprimer au peuple palestinien.
بالتالي كان بنحكي عن إنتاج بحثي محلي.
C'était une des recherches locales, si vous voulez.
بس لما بلشت بالدكتوراه يعني بلش طلع لي مع شركاء مع زملاء آخرين دراسي اللي بتحكي عن العالم العربي عن الزراعة في فلسطين على الحوار والنقاش.
Mais là, quand il a commencé à faire son doctorat, donc il a des collègues avec qui il pouvait parler plus sur ce sujet. Il a eu l'opportunité de faire des recherches avec ses collègues sur ce sujet. On espère que ça peut continuer et ça peut s'évoluer, ces recherches.
On va revenir après un peu de musique et on va entendre une lecture d'un article paru sur Cairn qui sera lu par Emeric. Mais tout de suite, on écoute de la musique.
La résistance, l'agroécologie pour la Palestine, par Morgane Izerté. Les Palestiniens et les Palestiniennes font l'expérience au quotidien d'une dépossession permanente de leurs terres, dont les nombreuses formes au fil du temps se manifestent en un paysage qui rétrécit et se morcelle et conduit à la perte de leur autonomie, notamment alimentaire. Le développement de l'agroécologie en Palestine ouvre des brèches. Ces terres nourricières sont synonymes d'indépendance. Dans les années 1950, nous exportions du blé en Jordanie et dans les pays du Golfe. Aujourd'hui, nous couvrons à peine 5% de nos besoins en céréales, raconte Saad Daguerre, agronomiste de formation et père de l'agroécologie en Palestine. Il existait alors une forte tradition agricole, mais nous ne sommes plus maintenant autosuffisants qu'en huile d'olive, notre principale source de revenus, en tomates, concombres et raisins. C'est la conséquence désastreuse de l'occupation qui impose des entraves à notre agriculture. Le poids de l'agriculture dans l'occupation est important. La fragmentation des territoires palestiniens et leur occupation depuis 1967 mènent à la confiscation de toujours plus de terres agricoles et des ressources hydriques des Palestiniens et Palestiniennes. Depuis 1995 et Oslo II, la division de la Cisjordanie occupée a entraîné la perte de 60% de la surface agricole utile palestinienne, souvent couplée à des opérations d'arrachage d'arbres, oliviers et arbres fruitiers. En effet, près de 63% des terres agricoles palestiniennes sont localisées en zone C, contrôlée par Israël. Une récente étude de la Banque mondiale montre que si les restrictions israéliennes étaient levées dans la fertile vallée du Jourdain, appelée aussi le grenier de la Palestine, 5000 hectares supplémentaires pourraient être cultivés en légumes, fleurs et aromates, pour une valeur ajoutée $1 milliard. En matière d'accès à l'eau, on estime à 80% les eaux de la Cisjordanie occupée, captées au profit d'Israël depuis 1995. La production agricole ne représente plus, en 2014, que 3,9% du PIB palestinien, contre 50% en 1968. La part de l'agriculture dans l'emploi contribue à peine à 14% des emplois en 2017, contre 45% en 2003. Pire, nombre d'anciens et d'anciennes paysans et paysannes vont aujourd'hui vendre leur force de travail dans les colonies où ils et elles sont payés 200 shekels par jour. Chaque matin, on peut les voir qui font la queue à l'entrée des colonies. Ces personnes, dit Yara Dawani de la ferme Om Schleiman, ne pouvons pourtant pas les juger. Elles doivent faire vivre leur famille et les conditions en Palestine occupée sont aujourd'hui telles que la survie prime pour beaucoup. Non seulement la Palestine subit les effets économiques de l'occupation, mais celle-ci en vient à la rendre toujours plus dépendante d'Israël. Dans ce contexte, on comprend en quoi la souveraineté alimentaire est un levier essentiel de la lutte contre l'occupation. Yara encore, si nous, Palestiniens, ne pouvons pas produire notre propre nourriture, comment pouvons-nous mettre fin à cette occupation ?
Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris.
Merci Aymeric pour cette lecture qui, j'avoue, m'a un peu inspiré aussi pour l'édito tout à l'heure. La musique, c'était Bachar Marhalife, ça s'appelle Olive Tree. Et alors là, ben, on est à la radio, mais il y a un clip avec des images d'autrefois de la bande de Gaza qui n'ont rien à voir avec le chaos actuel. Nous sommes toujours avec Ahmad Hennaiti, doctorant en anthropologie à Paris 8, spécialisé dans les questions d'agriculture palestinienne et de communauté bédouine. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de l'agriculture palestinienne face à la colonisation. Ahmad Hennaiti, l'effondrement de l'agriculture palestinienne s'explique par la colonisation et l'accaparement des terres par le colon israélien. Pouvez-vous nous en dire plus sur le mécanisme qui a conduit à un effondrement aussi massif et rapide ?
يمكن تفسير انهيار الزراعة الفلسطينية بالاستعمار واستيلاء المستوطن الإسرائيلي على الأراضي. هل يمكنك أن تخبرنا بالمزيد عن الآلية التي أدت إلى انهيار بهذا الحجم والسرعة؟
هو موضوع كبير ولكن نقدر نحكي عن طريقتين. الإسرائيليين الاستعمار الإسرائيلي عم بحاول يدمر الاقتصاد الزراعي الفلسطيني اللي هو حياة الناس.
C'est un très grand sujet, mais je vais vous parler de deux méthodes que l'Israélien a utilisées pour détruire l'agriculture palestinienne.
الطريقة الأولى اللي هي طريقة كتير خشنة وعنيفة جدا.
La première méthode, c'est une méthode très violente.
مثل مصادرة الأراضي.
Comme prendre les terrains.
هلا بيستخدم مصادرة الأراضي بعدة حجج أو ذرائع.
Prendre les terrains avec des excuses, en utilisant des excuses.
مثل إعلانها مناطق عسكرية مغلقة.
Par exemple, occuper des terrains pour des raisons armées, pour dire que c'est une zone armée et que personne peut accéder.
محميات طبيعية.
Ou bien des terrains, comment dire. Réserve naturelle.
Pour en faire des réserves naturelles.
Oui, comme ça aussi pour que les Palestiniens, pour une raison que les Palestiniens n'accèdent pas à ces terrains.
Ou manatik amniye.
Ah, ça c'est.
يعني security zone.
Ah, des zones de sécurité.
Ou كمان مصادرة بيعتبروها لمصلحة عامة مثلا الطرق توسيع الطرق أو هو بالأصل توسيع المستوطنات.
Ok, pour des raisons, des travaux publics, par exemple, allergir des rues, mais ce sont plus des raisons pour occuper les terrains.
الشيء الثاني إنه كمان مصادرة المصادر الطبيعية بخصوصا الماء. لما نحكي عن الماء أبار المياه أو المصادر الجوفية.
Surtout, ils occupent des ressources naturelles, surtout l'eau.
كل المصادر المائية في الضفة الغربية مصادرة من قبل الإسرائيليين.
Toutes les ressources de l'eau dans le Cisjordanie se sont occupées par les Israéliens, se sont contrôlées et occupées par les Israéliens.
لأنه حتى قضايا المياه وقضايا القضايا المياه تأجلت حتى في المفاوضات لمراحل نهائية وبالتالي إنه لسات الإسرائيليين هم اللي بيتحكموا فيها.
L'eau c'est un très grand sujet. Jusqu'à aujourd'hui c'est les Israéliens qui contrôlent l'eau et comme vous le savez l'eau joue un très grand rôle dans l'agriculture.
حتى الآبار المياه اللي كانت موجودة من قبل 67 في الضفة الغربية.
comme les puits artisanaux on dit les puits artisanaux qui sont situés dans le Cisjordanie sont contrôlés par les Israéliens.
ممنوع أصحابها يعملوا لها إصلاح.
Les propriétaires de ces puits n'ont pas le droit de faire une maintenance à ces puits, par exemple.
وصيانة.
Oui, maintenance.
OK. وبالتالي كمان وبالتالي هي إما جفت أو صارت مياه مالحة.
Et parfois, ça devient très sec ou bien ça peut devenir de l'eau salée qui est pas, ça permet pas à utiliser dans l'agriculture.
بالتالي في كتير من الآبار هلا بطلت موجودة لأنه بطلت.
Et malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de puits qui n'existent plus.
الطريقة الثانية اللي بنحكي عنها الطريقة الناعمة.
La deuxième méthode c'est une méthode on peut dire douce.
مثلا الإسرائيليين دخلوا التكنولوجيا الزراعية للزراعة الفلسطينية.
Ils ont les Israéliens ont introduit la technologie agriculture aux Palestiniens.
وإدخال الزراعة الفلسطينية أدى التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية أدى اللي يقدروا يتحكموا بشكل كلي في الزراعة الفلسطينية.
Et ceci a permis aux Israéliens d'avoir vraiment un très grand contrôle à l'agriculture palestinienne.
ويعني نحن لما بنحكي عن التكنولوجيا احنا بتحكي عن التكنولوجيا اللي اصلا الاسرائيليين بزودوها للفلسطينيين وبالتالي هم بيتحكموا في طبيعه هذا والكميات وشو طبيعه التكنولوجيا اللي عم بزودوها.
En fait, c'est les Israéliens qui donnent cette technologie aux Palestiniens, donc c'est eux qui contrôlent comment ils leur donnent cette technologie et quand est-ce qu'ils donnent cette technologie. Donc c'est eux qui contrôlent l'agriculture indirectement.
وهي تكنولوجيا غالية مرتفعة سعرها.
Et c'est une technologie très très chère.
وهذا أدى إلى في المقابل إنه مساحة التسويق فرص التسويق كتير ضيقة. تسويق المنتجات الزراعية. تسويق. ماركتينج.
Alors ça a causé que le marché de l'agriculture devient faible.
لهيك بنحكي انه المزارعين الفلسطينيين وقعوا في ديون كثير كبيره.
Donc tous les agriculteurs malheureusement sont tombés ont beaucoup de crédits de dettes pardon.
Yes. وكمان انه قضيه لما الزراعه تم تصميمها لحتى تكون موجهه للتصدير للخارج.
Et l'agriculture a été faite d'une manière avec l'objectif d'être exporté à l'extérieur au lieu que ça soit distribué dans le pays. Et non pas pour le besoin des Palestiniens, malheureusement.
Et
quand on parle de l'exportation à l'extérieur, ce sont les Israéliens qui contrôlent toutes les frontières. Donc c'est eux qui contrôlent ce qui sort, ce qui rentre. Et c'est pour cela que ça devient un sujet très complexe.
الإشي الثاني مثلا استخدموا قضية إنه توفير العمل في المنشآت الإسرائيلية للفلسطينيين. توفير يعني بما معنى إنه وفروا فرص عمل للفلسطينيين في المستعمرات الإسرائيلية.
Mais les Israéliens ont donné des opportunités aux Palestiniens à travailler mais dans les terrains qui sont occupés par les Israéliens.
وهذا خلى كثير من الفلسطيني بسبب الوضع يعني انه الزراعه صار وضعها متدهور صاروا يروحوا يشتغلوا
malheureusement vu que l'agriculture devient un secteur très faible sans profit donc les palestiniens se sont obligés d'aller à cette opportunité
وبالتالي صاروا يروحوا يشتغلوا في المستوطنات.
Donc ils sont partis pour travailler dans les terrains occupés par les Israéliens.
هلا بالفترة الأخيرة صارت إحنا كمان بنحكي عن حجم المصادرة كتير عالية يعني هلا حاليا بنحكي عن حوالي 43-45% من مساحة الضفة الغربية مصادرة.
On parle donc entre 43-45% des terrains dans Cisjordanie qui sont occupés par les Israéliens.
وهاي المساحة المصادرة هي المناطق الزراعية والمناطق الرعوية.
رعوية شو قصدك؟
يعني pastorals.
Pastoral. Donc on parle des terrains agriculture et des terrains pastoral.
وبالتالي إنه إحنا بنحكي كيف يعني إحنا لما بنحكي لما صارت أوسلو وقسموا المناطق ألف باء جيم.
Quand il y a eu l'accord d'Oslo, ils ont séparé les villes en A, B, des secteurs en A, B et C.
مناطق سي اللي موجود فيها كل الأراضي الزراعية والرعوية تابعة يعني للحكم الإسرائيلي الكامل.
Donc c'est la secteur C, c'est occupé par Israël. Donc on parle de tous les terrains agricoles, tout vraiment tous les terrains agriculture et pastoral, ils sont occupés par Israël.
وحالياً بيحكي الوزير يعني الحكومة الإسرائيلية إنهم هم بيسعوا لمصادرة والسيطرة على حوالي 83% من مساحة 82% من مساحة الضفة الغربية.
82. Et les Israéliens, ils en parlent de ça. Ils disent que leur objectif, c'est de occuper 83% des terrains de Cisjordanie.
ولهيك حاليا بنشوف في هجمة كتير عنيفة وشرسة على المزارعين الفلسطينيين وعلى البدو الموجودين في الضفة الغربية.
C'est pour cela on voit une grande attaque contre les agriculteurs et contre les boudelins.
إحنا بنحكي عن حوالي أكثر من 50 تجمع بدوي.
On parle de 50 Bédouins qui ont été immigrés par les Israéliens.
Qui ont été déplacés.
Déplacés, oui, par les Israéliens.
On parle de beaucoup de terres agricoles qui ont été abandonnées.
Et on parle de beaucoup de terrains agriculteurs, d'agriculture où leurs propriétaires ne peuvent plus arriver. Donc ils n'ont plus accès à ces terrains et ils sont les propriétaires de ces terrains. Et ils utilisent la violence pour ne pas laisser les gens arriver à leur propriété.
On va écouter un petit extrait. C'est Ahmed Brahim, il était invité au week-end de Decolonize organisé par le CSIA et le CSPCL. C'est un extrait très court et là, il va parler de la bande de Gaza spécifiquement.
Il faut savoir que par exemple à Gaza, vous aviez avant la guerre les meilleurs ingénieurs agronomes du monde. Parce que Gaza était sous blocus et le blocus était un vrai blocus. Ça, on le sait peu. Et Gaza avait atteint l'autonomie alimentaire avant le déclenchement de la guerre de 2023. Comment ? Bah parce que les autorités de Gaza avaient demandé aux ingénieurs agronomes de travailler et qui ont mis en place des plans pour pouvoir revoir toute l'agriculture de Gaza, faire une agriculture maraîchère, faire de l'élevage de volailles en quantité suffisante. Alors, ça ne couvrait pas les demandes de la population, mais suffisant pour pouvoir permettre de survivre. Alors qu'à Gaza, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de terres meubles, fertiles, etc. C'est une plage, Gaza.
Voilà, alors là, c'était spécifiquement sur la bande de Gaza et où les choses sont peut-être différentes. Alors malheureusement, on est en retard sur le temps et Ahmad Hineiti, en peut-être une ou deux phrases, on s'est mis à parler, vous nous l'avez dit tout à l'heure, dans les années 2010, de souveraineté alimentaire en Cisjordanie, en Palestine en général. Est-ce que vous pouvez juste reparler un peu de ce changement à partir des années 2010.
بكلمتين البطل عنا كتير وقت إذا فيك تحكي عن سوفرينتي عن السياد الغذائي من 2010
وطلوع. هلا موضوع السيادة الغذائية هي أجت ردا على شغلتين. الشغلة الأولى على الدراسات الكلاسيكية اللي بتحكي عن الأمن الغذائي food security.
Donc il y a deux sujets dont on peut parler ici. Donc le premier, c'est ça parle de pardon, concernant la sécurité de la nourriture alimentaire.
وشي تاني إنه السيادة الغذائية أكثر في بحث يعني هذا بنحكي كمان عن قضية الإشي العملي اللي إلها كمان إنه بترجع الثقافة. يعني وبترجع الثقافة الزراعية للفلسطينيين وبالتالي يعني الزراعة بتكون لها علاقة أكثر مرتبطة بثقافة الناس.
L'agriculture devient plus liée à l'éducation des gens.
Rendre la culture agricole aux Palestiniens.
Pour rendre la culture agricole aux Palestiniens.
الإشي الثاني الزراعة الغذائية السيادة الغذائية بتحكي كمان عن قضية الاعتماد الذاتي أكثر من الاعتماد على الخارج.
Et ça parle aussi plutôt de dépendre de d'eux-mêmes, c'est-à-dire les Palestiniens dépendent d'eux-mêmes au lieu de dépendre à l'extérieur, à ce qui est importé, importé d'autres pays.
والهدف لإلها أكثر تلبية احتياجات الناس الغذائية بتحكي عن غذاء مش مواد استهلاكية بتحكي عن غذاء يعني صحي.
Et c'est plutôt pour garantir une bonne nourriture au peuple, une nourriture saine.
وبالتالي يعني هذا بصفي إنه أنت ممارستها بتخلي كمان في إلها التفاف مجتمعي يعني إنه بصير الزراعة بالحماية الشعبية الناس بيحموها لأنه بتلبي حاجات الناس.
Et ça devient plus une question de protéger l'agriculture parce que ça devient un besoin au peuple. Donc ils protègent leur propre source de d'aliments.
ولما بنحكي سوري لما بنحكي كمان عن سيادة غذائية احنا بنحكي عن زراعة متحررة من كل يعني من اغلب القيود اللي بفرضها كمان الاستعمار والاحداث الخارجية في العالم.
ما فهمت.
يعني الزراعة الزراعة السيادة الغذائية والممارسة تاعتها بتؤدي الى التحرر من القيود الاستعمارية يعني.
اوكي. Donc ça nécessite aussi le fait de comment dire to une libération à travers l'agriculture.
Ouais. Alors, on va devoir passer à une deuxième pause musicale. Je suis désolé, on est un petit peu pressé par D'accord. le temps. Il faut qu'on parle aussi des Bédouins dans la troisième partie. On va écouter Férouz tout de suite, qui chante Al-Zarat, j'ai oublié le sud. Non, je le redirai après la chanson. C'est Song for Palestine.
Thank you.
Voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
Et c'était donc Férouz avec Yazarat Almadaïn. Nous sommes toujours avec Ahmed Hneiti, doctorant en anthropologie à Paris 8, et on parle de l'agriculture et des Bédouins en Palestine. Une petite question, une question très importante, mais à laquelle on va répondre rapidement avant de parler des Bédouins. Il y a aussi une question d'empoisonnement des terres agricoles palestiniennes par Israël.
OK, في سؤال بيحكي عن تسميم الاراضي الزراعيه من الاسرائيلي. اذا فيك تحكي شو عنه.
هلا الزراعه لما كنا نحكيها لما يعني اكثر الزراعات اللي مستهدفه من قبل الاسرائيليين اللي هي عم بتمارس سياده غذائيه.
Donc on va parler de l'agriculture la plus attaquée par les Israéliens.
يعني وفيها مثلا كتير أشكال من هذا يعني الزراعات الحقلية يعني الحبوب القمح والشعير لأنه أكثر اعتمادها على الطبيعة.
ils attaquent le plus le blé.
Donc ils se concentrent par exemple sur le blé et l'orge.
وبالتالي مثلا هاي مستهدفة بكتير أشياء إما تخريب أو كمان رشها بمبيدات لحتى يعني يدمروا المحصول okay. الزراعي.
Et ça se détruit avec ou bien la destruction ou bien à travers des produits chimiques.
وحكى بشار قبل شوي لما حكى عن قضية الزيتون مثلا.
Et on parle aussi surtout sur les olives.
شجرة الزيتون عم تتعرض لهجمة كتير شرسة من قبل الإسرائيليين لأنها كمان متحررة من قضية التكنولوجيا الزراعية.
Okay. C'est l'agriculture la plus attaquée par les Israéliens parce que c'est un type d'agriculture, donc on parle des olives, qui est la plus indépendante des Israéliens. Donc c'est un arbre qui n'a pas besoin de technologie ou d'autres ressources par l'être humain.
الإحصاءات بتحكي عن آخر ثلاث سنوات حوالي 57 ألف شجرة زيتون تم تكسيرها من قبل الإسرائيليين.
Donc les statistiques disent qu'il y a plus de 57,000 arbres d'olives qui ont été détruits par les Israéliens.
ولكن إنه الزراعة التكنولوجية لأنهم قادرين يسيطروا عليها وأحيانا بتأدي إنهم هم يتحكموا فيها وبالتالي هم عم يعني إنهم شوية تاركينها لبعدين.
Okay. Et l'agriculture qui dépend à la technologie, pour le moment, les Israéliens, ils laissent ce type d'agriculture à côté parce que c'est plus simple à contrôler.
يعني هي قصة كيف الإسرائيلي طول الوقت عم بيسعى ليتحكم بكل مكونات المجتمع الفلسطيني وغذائه. أهم إشي الغذاء اللي يقدر يسيطر على الناس من خلال الغذاء.
Donc c'est vraiment le but, c'est l'objectif des Israéliens, c'est vraiment de contrôler toutes les ressources d'agriculture qui existent chez le Palestinien, et parce que ça contrôle l'alimentation qui arrive chez les Palestiniens.
بالتالي يعني لما بنحكي عن سيادة غذائية وبنحكي عن المصادر اللي منفلتة من قضية التحكم الإسرائيلي هو عم بيعتبرها جزء من المقاومة وبالتالي لازم يتم تدميرها.
Okay. Donc quand on parle de la souveraineté alimentaire, donc ça c'est l'agriculture que les Israéliens le plus veulent contrôler pour pouvoir contrôler les Palestiniens.
Parce qu'il y a un élément de résistance.
Parce qu'ils le considèrent comme un élément de résistance.
Alors maintenant, je vais basculer sans transition sur les Bédouins. Alors c'est un sujet que vous avez étudié, Ahmad Renaiti. Donc vous avez beaucoup de choses à dire et je vais grouper les questions parce que on a un temps restreint pour y répondre. Combien de Bédouins trouve-t-on en Palestine aujourd'hui ? Et Israël conçoit des plans de réinstallation des Bédouins. Alors ces plans sont-ils faits pour le bien des Bédouins ? Et comment les Bédouins parviennent-ils à préserver leur style de vie nomade ?
في كذا سؤال. أول سؤال كم عدد بدو الموجودين في فلسطين؟ ثاني سؤال إنه إسرائيل عملت plans يحطوا البدو يحطوهم بمطارح. إنه من ناحية دول plans اللي عم بيعملون وعم بيفيدوا.
هلأ بخصوص عدد البدو في فلسطين ما فيش أعداد محددة لأنه في اختلاف على تعريف البدو. بس التقديرات تحكي عن 30,000.
Ok. On n'a pas vraiment un nombre exact pour le moment, mais parce que ça dépend vraiment de comment vous définissez un bédouin. Pour le moment, on parle de
30,000.
Pour le moment, on peut dire qu'il y en a 30 000 bédouins.
On parle d'un bédou de l'Est, mais même dans l'Israël, il y a environ 220 000 bédouins palestiniens.
Wow. Donc là, on parle que de Cisjordanie, mais si on parle dans Israël, il y en a 220 000 bédouins palestiniens.
Alors, la question ici, c'est que les bédouins ont exercé une siyade ghidaïe, yani haqiqiye, jay min namat el haya qu'ils ont vécu. Je ne comprends pas البدو عم بيمارسوا سيادة غذائية من خلال النمط المعيشي اللي هم عم بيعيشوها.
Okay. Donc pour le moment le bédouin il passe par une souveraineté alimentaire à cause de la mode de vie qu'il est en train de vivre.
Ils ont de fait une souveraineté alimentaire qui est imposée par le mode de vie.
Ils ont une souveraineté alimentaire qui est imposée par la mode de vie.
الثروة الحيوانية اللي بيمتلكها البدو أغلبها أو كلها بتعتمد على المصادر الطبيعية والمراعي.
OK, tous les besoins des bédouins, ça dépend de toutes les ressources naturelles.
وموجودة طول الوقت في المساحات الرعوية اللي الإسرائيليين بدهم يضموها لدولتهم.
Donc ils sont en fait ces besoins sont biodisponibles, c'est-à-dire ça existe dans beaucoup de terrains que les Israéliens sont concentrés à occuper.
Et كمان شغله انه كمان الانتاج البدوي بيذهب لتلبيه احتياجات الناس الفلسطينيين.
Donc en même temps on doit dire aussi que la production des bédouins ça impacte les besoins des Palestiniens.
لهيك الاسرائيليين طول الوقت عم بيحاربوا البدو وبكثير من الطرق والآليات.
Donc c'est pour cela que les Israéliens sont en train d'attaquer les bédouins. Voilà, c'est à cause de ça.
Parce qu'il
impacte positivement à la vie des Palestiniens.
جزء منها مثلا قضية الهدم وقضية الاعتقالات وقضية منع البنية التحتية.
Donc ils les attaquent en détruisant leurs tentes ou leur maison et leur infrastructure.
كل هاي السياسة فشلت مع البدو.
Et tout ça, ça a été échoué avec le Bédouin, échoué par les Israéliens.
أجت فكرة إنه مخططات حضارية للتوطين البدو. أجت أجا الإسرائيليين طرحوا للبدو إنه إحنا بدنا نوطنكم في أو نحطكم في مراكز حضارية يعني زي كرة مخططة.
Okay. Et les Israéliens ont donné une opportunité aux Bédouins de devenir un peuple légal dans le pays. Il voulait imposer le mode de vie citadin aux Bédouins.
OK. ولكن هاي المخططات تفتقر لكل الثقافة والمشاركة البدوية. البدو غير أول شيء غير مشاركين في تخطيطها.
Et ça c'est totalement contre les Bédouins.
لا بتتلائم مع ثقافتهم.
كيقولوا الثقافة.
كن.
ceci ne correspond pas aux cultures des Bédouins.
وهدفها الرئيسي تجريد البدو من ثروتهم الحيوانية. يعني تدمير الثروة الحيوانية للبدو.
Et principalement, c'est pour détruire les ressources alimentaires des Bédouins.
وتهجيرهم من المساحات الواسعة اللي هم عم بيستخدموها في السكن وفي الرعي.
Et pour les faire immigrer de tous les terrains où ils utilisent pour faire leur comment dire مراعي الباستورالي.
يعني بنحكي مثلا عائلة بدوية بتستخدم بالوضع الطبيعي 50 دولم.
Par exemple, une famille de Bédouins actuellement utilise un terrain de 50 boudoun. Boudoun, c'est l'arrêt de 1000 mètres. 1000 mètres. Boudoun, pour ceux qui ne savent pas, c'est un terrain agricole de 1000 mètres carrés.
Le مخطط اللي عم بيقترحوه الإسرائيليين بدهم يحطهم في 500 متر أو أقل.
Et actuellement, le plan des Israéliens, c'est juste le remplacer par un tel terrain 500 mètres de 500 mètres au carré au lieu de 1000 mètres au carré.
وبالتالي نحن نحكي عن إنه هدول الناس سوف يعتمد يتركوا ثقافتهم ويتركوا مصدر دخلهم الأساسي اللي هو الثروة الحيوانية.
Et donc surtout d'obliger les Bédouins de laisser leurs ressources alimentaires et leur culture.
وصيروا يعني أيدي عاملة في المستوطنات الإسرائيلية.
Et devenir des salariés dans les terrains occupés par les Israéliens.
لهيك طول الوقت البدو عم برفضوا هاي المخططات.
C'est pour cela que les Bédouins tout le temps ils refusent ces plans parce que ça correspond pas à leur culture finalement.
لأنه الهدف منها مش تحسين حياتهم وإنما تدمير حياتهم.
Et parce que l'objectif de ça c'est pas d'améliorer leur vie mais c'est de la détruire.
C'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. Je vous remercie, Ahmad Rinaiti, et merci pour la traduction. Iman aussi, merci, tu es venu aider aussi à la traduction. Je remercie Emeric et Dario à la réalisation. C'est la fin de cette émission des Voix du Crépuscule que vous allez pouvoir retrouver en podcast bientôt. On va laisser la place à MapMonde. Il va être 21h. On est sur Radio Campus Paris.